France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Et ce matin, heureux d'être à Toulouse, j'accueille une éminente artiste toulousaine qui a fait vibrer l'Opéra de Paris, le Festival d'Aix et toutes les grandes scènes du monde. Jeanne Verbier est à mes côtés pour évoquer 50 ans d'art lyrique. Christophe Gristy, directeur du Capitole, viendra également nous dire tout ce que nous devons à Jeanne Verbier. Et nous poursuivrons cet hommage en compagnie de la jeune soprano Anaïs Constant. En fin d'émission, clin d'œil à Claude Nougaro avec sa fille Cécile Nougaro qui aura quelques jours l'inauguration de la Maison Nougaro à Toulouse. Quand on vous dit que Toulouse est la ville du chant, mais au fait, ça veut dire quoi être toulousain ?
Je ne brandis aucun drapeau, je ne veux suivre aucun troupeau.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'ai ni maître, ni gourou, ni contre-maître, rien du tout.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'ai jamais envié quelqu'un, je ne suis jaloux de tes gueules.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je n'attends aucun messie, je n'aime pas les utopies.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
Je ne me sens jamais vaincu, je ne me sens jamais cocu.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien, Toulousain.
J'accable pas les perdants, je ne me sens jamais gagnant.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
J'en veux pas à qui que ce soit, je ne m'en prends jamais qu'à moi.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
Je ne crains pas les puissants, je me sens pas impuissant.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
Je me la joue pas sudiste, je me la joue pas artiste.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
J'aime pas l'impolitesse, j'ai pas peur de la vieillesse.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
J'ai pas besoin de m'engager, j'ai jamais été dégagé.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
Je ne vais pas sur le terrain, je suis que là soirée matin.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
Je ne peux pas être méchant, je n'ai pas de mauvais penchant.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
Je ne veux pas être nôtre, ni glouglou, être né nôtre.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien Toulousain.
Je ne crains pas le bon Dieu, je crois pas à Bourdieu. J'ai pas confiance en Marcos, je ris pas au gag de Bedos.
Je ne suis fanat de rien, je ne suis déçu par rien. Je ne revendique rien, je ne regrette jamais rien.
Je ne méprise personne, mais personne ne m'impressionne. J'ai pas envie d'être riche, ni d'être en haut de l'affiche.
Je veux pas gagner des millions, j'ai de plus grandes d'ambition, je rêve pas du paradis, chez nous on se le construit.
Toulousain, 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 on n'est pas du tout chauvin.
On n'est pas du tout chauvin.
Toulousain, Toulousain, on est complètement zinzin.
Toulousain, on est zin, complètement zinzin.
Toulousain, Toulousain, on n'est pas du tout chauvin.
J'aime les soldats, mais je ne fuis aucun combat.
À Kumako, c'est bien, ça c'est bien.
Et voilà la définition du Toulousain par le groupe Fabuleux Trobador. C'était en 2003. Pas du tout chauvin, complètement zinzin. On va voir avec mes invités si c'est le cas. Et aussi avec notre directeur Marc Voinchet, qui est également Toulousain. Nous sommes aujourd'hui, vous le savez, donc à France Musique, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.
France Musique, en direct de Toulouse.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et je vous l'ai dit, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin l'une des artistes qui illustre justement la gloire du chant toulousain. Elle était déjà sur scène à la toute fin des années 50. Elle est aujourd'hui à côté de moi avec une jeunesse qui fait plaisir à voir. J'ai le plaisir, oui, le grand plaisir d'accueillir ce matin à France Musique, Jeanne Verbier. Jeanne Verbier, en 1964, dans Mignon, avec Xavier Deprat. Bonjour Jeanne Verbier.
Bonjour.
Vous vous rappelez cet enregistrement ?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Mais vous avez beaucoup chanté Mignon
J'ai
à vos débuts.
J'ai beaucoup chanté Mignon. Je le chantais presque toutes les semaines à l'Opéra Comique.
Presque toutes les semaines.
Ah ouais.
Parce que c'était l'époque, il faut dire. Là, on est en 1964, où la troupe existait encore.
La troupe existait, et alors, où je remplaçais, où je le chantais, mais je l'ai beaucoup chanté à l'Opéra Comique. Oui.
C'est un rôle qui vous convenait particulièrement, du point de vue vocal ?
Vocalement et physiquement.
Oui.
Oui.
Alors, Mignon, ici, c'est un disque dirigé par Jean Fournet, avec quelqu'un aussi que, malheureusement, peut-être on a un petit peu oublié aujourd'hui, qui est Xavier Deprat.
Ah ouais.
Qui était votre partenaire dans ce disque, mais qui était quelqu'un d'assez proche de vous à vos débuts.
Oui, qui m'a beaucoup soutenu et qui a été mon parrain musicalement, si vous voulez. Il m'a parrainé pour l'école des vedettes, je crois.
Voilà, l'émission de l'école des vedettes qui a contribué à vous lancer.
Exactement, d'Aimé Mortimer.
Mais ça voulait dire quoi, être parrain, alors, dans le milieu de l'art lyrique?
C'est-à-dire, c'était d'accepter de chanter un duo et avec moi, et puis de me donner un tout petit peu de courage, quoi.
Ah, voilà.
Pour aborder la carrière.
Et ça a été un bon parrain.
Ça a été un bon parrain. C'est à vous d'en juger.
Oui, ouais, ça j'en juge, et tous ici nous en jugeons avec bonheur. C'est un grand plaisir de vous accueillir
Mais
aujourd'hui à Toulouse.
Mais j'étais très contente d'entendre Xavier, parce que c'était un ami. Après, c'est devenu un ami très cher.
C'est devenu un ami très
et
cher.
Et c'était un grand artiste.
Je le disais, vous avez chanté partout dans le monde, à Paris beaucoup, en France, dans tous les opéras, à Aix-en-Provence, et puis sur les grandes scènes lyriques qui comptent presque 5 continents. Mais vous êtes restée toulousaine,
oui,
dans l'âme. Vous êtes revenue à Toulouse, vous êtes très attachée à cette
pays.
Ville. C'est votre pays.
Voilà.
Et pourtant, vous n'êtes pas tout à fait toulousaine.
Non, je suis de Villefranche de Lauragais.
Ouais, c'est pas pareil. J'entends des réactions dans le public qui me surprennent, parce que je ne connais pas toutes ces subtilités. Le Lauragais, ça n'a rien à voir avec Toulouse.
Ça n'a rien à voir avec Toulouse.
Mais néanmoins, vous êtes quand même installé aujourd'hui à Toulouse.
À Toulouse, oui.
Et c'est à Toulouse, on peut dire, que vous devez aussi votre formation, votre métier.
Alors, je fais toutes mes études
voilà.
à Toulouse.
Ce qui n'est pas le cas de tous les... Certains grands chanteurs de votre génération ont fait leurs études au Conservatoire de Paris. Vous, c'est vraiment Toulouse qui vous a formé.
Moi, j'ai fait le Conservatoire de Toulouse, d'abord dans la classe de Madame Blandora, en piano. Voilà. Et où Maddy venait de sortir, Maddy Mespé.
Maddy Mespé, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, notre chère Maddy.
Venait de sortir du conservatoire avec tous les diplômes. Et moi, je rentrais au conservatoire à ce moment-là. Nous avions 14 ans.
Est-ce que ça avait un sens à ce moment-là, quand vous étiez toute jeune chanteuse, et de dire que Toulouse était vraiment une capitale du chant en France, ce qu'elle est?
Non, moi, je n'ai pas pensé à tout ça. Moi, ce que je voulais, c'est chanter. Alors, de toute façon,
voilà.
Alors, je faisais tout pour chanter.
Voilà. Alors, j'ai parlé un peu avec vous, évidemment, pour préparer cette émission, et je vous ai demandé, mais qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez une toute jeune fille, voire une enfant? Qu'est-ce qui vous a donné l'amour du chant? Et vous m'avez cité tout de suite Caruso.
Ah oui, c'était incroyable.
Caruso, en 1907, dans Payas.
C'est magnifique.
Vous me disiez, je ne peux pas l'entendre, non, Jeanne Verbier, tellement ça me bouleverse.
C'est un air qui me bouleverse, oui. Toute cette désespérance, c'est un air qui me bouleverse, c'est la vérité.
Et vous l'avez découvert quoi, sur un vieux 78 tours, à la radio?
Pas du tout, à la TSF.
À la TSF.
À la TSF,
À Villefranche de Lauragais.
À Villefranche de Lauragais.
Voilà, on pouvait entendre Caruso à la TSF.
Ben oui, j'entendais Caruso, j'ai entendu tout, en tout cas.
C'est un des artistes qui vous ont donc donné envie peut-être de devenir chanteuse.
Et j'ai dit, moi je serai chanteuse.
Voilà. Sauf que votre mère n'était pas tout à fait d'accord.
Pas du tout, c'est pour ça que j'ai fait du piano d'abord.
Je ne sais pas si c'est vrai cette phrase, mais si tu manges, tu chanteras à l'église dimanche et tu tiendras l'harmonium.
Voilà, oui. On me faisait déjà du chantage, voyez-vous.
Voilà. Mais il faut dire que donc, votre mère vous destinait plutôt à la comptabilité.
Oui.
Elle s'opposait plutôt à votre carrière de chanteuse. Vous avez quand même fini par imposer cette
volonté. J'ai rien imposé du tout. Ça s'est fait naturellement. Mais la comptabilité, c'est vraiment pas mon truc.
Mais comment ça s'est fait exactement, ce changement, cette acceptation
progressive? C'est-à-dire que j'allais le matin à l'école pour la comptabilité, ouais, et l'après-midi au conservatoire. Ouais. Mais j'étais dans une école pas loin du conservatoire, si vous voulez. Donc j'avais vraiment calculé
Vous avez calculé
truc.
Votre truc.
Voilà. Et puis l'après-midi, je passais au conservatoire, ce qui me plaisait beaucoup, quoi.
Mais alors, il y a peut-être votre mère avait au moins raison d'un certain point de vue, parce que vous étiez asthmatique.
Oui.
Donc peut-être qu'on n'imagine pas qu'une petite fille, une jeune fille asthmatique va devenir chanteuse.
Oui, mais c'est-à-dire que j'ai failli mourir. Je suis allée pendant 5 ans au Mont d'Or pour soigner mon asthme.
Ouais.
J'ai eu un médecin extraordinaire à Villefranche de Lauragais. Le docteur, je précise.
Je crois que le public est très villefranchais, là. J'ai pas...
Le docteur Paul Isard est vraiment... il m'a sauvé la vie.
Voilà, il vous a sauvé la vie. Et, et d'une certaine façon, il vous a aidé aussi à maîtriser votre
et
souffle
merveilleux...
et à devenir une chanteuse.
Oui, exactement. Voilà. Il m'a interdit certaines choses et il a été... Non, c'était formidable. Ça a été un médecin magnifique pour moi.
Alors, vous avez donc suivi des cours de chant à Toulouse. Les choses se sont précisées.
Avec Johnny Lasson.
Voilà, qui était l'épouse du directeur.
Du directeur Louis Isard.
Au Capitole,
Capitole, oui.
Et puis, vous avez commencé à jouer des petits rôles.
Je faisais un petit rôle dans, je me rappelle, dans Pampanilla. J'ai fait des...
Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, parce que vous savez que j'aime l'opérette. Donc,
oui,
vous avez fait vos
aussi.
Débuts dans Pampanilla.
C'est vrai.
De Jacques-Henri Riss, vous-même. Oui.
Moi aussi, oui. Alors, je faisais une anglaise et j'adorais. Mais j'adore l'opérette et je voudrais faire de l'opérette. Mais je crois que c'est un peu tard. Mais je reviendrai, je n'ai pas dit mon dernier mot.
Mais où est-ce qu'on donnait Pampanilla à Toulouse?
Au Capitole.
On donnait Pampanilla au Capitole, d'accord.
Et avec Maurice Baquet.
Au directeur. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Et alors, quelqu'un aussi que vous avez, je crois, croisé justement au moment de ses débuts d'opérette, qui a été important, c'est un chanteur un peu oublié aujourd'hui, un chanteur à voix, comme on disait, c'était Lucien Lupi.
Ah oui. Et c'est lui qui m'entendait chanter je chantais dans les couloirs, je chantais un peu en scène, je voulais me faire entendre, quoi, je voulais me faire remarquer. Et il avait parfaitement compris, il me dit, tu sais, si tu veux vraiment faire quelque chose, il faut que tu partes à Paris. Et je l'ai écouté.
Voilà.
Et il a été de très bons conseils.
Vous vous rappelez
Et je m'en souviens parfaitement.
Et votre première impression de Paris?
Je ne sais pas, j'étais éblouie.
Éblouie?
Oui, ouais. J'ai été éblouie par Paris. Ben, tout était grand, immense pour moi. Je trouvais l'opéra, alors vous n'imaginez pas.
Et c'est là que vous avez fait donc l'École des vedettes, cette émission de l'époque d'Aimé Mortimer.
Voilà, Maria Brunez m'avait dit, qui était mon professeur à Paris, m'a dit, mais pourquoi tu passes pas le concours? Oh, je lui ai dit, je ne suis pas prête pour passer le concours de l'École des vedettes. Elle me dit, ben vas-y. Bon, alors je suis allée.
Voilà, c'était comme la Star Academy aujourd'hui, mais sauf que c'était pour le chant lyrique.
J'y suis allée. Et j'avais chanté, je crois, l'air d'Iphigénie en tauride. Écoutez, j'ai pas la voix pour chanter ça, enfin bon. Et puis elle... Oui, ça vous fait rire. Et puis elle m'a engagée quand même. Je suis passée, j'ai franchi les éliminatoires, puis j'ai franchi les premiers tours. Puis Xavier Depraz a été mon parrain. Puis Michel Roux a été mon parrain, le baryton. Et puis... le ténor. Ah, voilà que j'ai une absence de mémoire.
On
là.
Va le retrouver.
Albert Lance.
Albert Lance, voilà.
Voilà.
Vos parrains, donc vous étiez bien parrainés.
J'étais bien parrainée, j'étais bien protégée.
Et comment se fait-il alors que vous avez fait vos débuts à la Scala et pas avant même Paris?
Parce que j'avais passé une audition avec devant Gabriel Dussurgé, qui m'a engagée la même année pour chanter dans L'Enfant et les Sortilèges. Non, mais je dis n'importe quoi, c'est pas vrai. C'était la flûte enchantée pour chanter la deuxième dame dans La flûte enchantée.
Oui.
Et puis il me dit, attends 2 secondes, il est allé téléphoner à la Scala pour savoir si on pouvait aller auditionner. Et il me dit, oui, vous partez demain. Et nous sommes partis le lendemain en wagon-lit, tous les deux, avec Gabriel.
Pas mal.
Et on a eu une audition à la Scala. Et j'ai chanté dans L'Enfant et les Sortilèges à la Scala de Milan, avant de chanter au Capitole de Toulouse et avant de chanter à l'Opéra.
Oh, c'est quand même des débuts assez brillants.
Bah, c'était pas mal, oui, c'était pas mal. Mais je ne me suis pas rendu compte, vraiment.
On vous retrouve, Jeanne Verbier, alors dans un autre enregistrement, encore plus ancien que celui tout à l'heure, là c'est 1961, et c'est un enregistrement de la Dame Blanche que j'aime beaucoup. On reconnaîtra aussi d'ailleurs les voix d'Aimé Donia et de Michel Sénéchal. Un bel enregistrement magnifique de la Dame Blanche en 1961, Jeanne Verbier.
C'était mes débuts vraiment là.
C'est vraiment vos débuts. Alors, ouais. Je pense tout de suite à plusieurs choses en vous écoutant.
Une voix claire.
On comprend tout.
Presque.
Ah, on comprend tout. Il faut le rappeler aujourd'hui aux jeunes chanteurs. On comprend tout et pourtant, vous allez vous balader dans l'aigu.
Mais c'est aigu. j'avais complètement oublié.
Mais cet aigu, c'est un peu la caractéristique de votre voix quand on dit mezzo-coloratura.
Oui.
C'est-à-dire c'est le mélange du registre de la mezzo l'agilité dans l'aigu.
En fait, le genre de voix que j'ai, on appelait ça une... j'ai oublié le nom.
Moi, j'ai lu mezzo-coloratura,
mezzo-coloratura, mais... Oh, flûte, c'est que si ça me revient, je le dirai en cours d'émission, excusez-moi, mes 88 ans sont là.
En tout cas, mais oui, quelle agilité, quelle musicalité, quel sens du texte aussi,
c'est un grand... Une du gazon, voilà. C'était la voix, c'était en principe les voix qui chantaient de l'opérette, ce que l'on m'a toujours refusé, et puis c'était des voix longues. Car en fait, j'avais un contre-ré dans la voix que je n'ai jamais utilisé, heureusement. Et puis, un grave dit naturel, si vous voulez.
Et alors, voilà l'autre chose qui me frappe dans cet enregistrement, c'est toute cette fin en duo avec notre regretté Michel Sénéchal, qui est venu si souvent dans cette émission, qui a été un camarade de vos débuts, on peut dire.
Tout à fait. Tout
à fait. Vous avez grandi ensemble.
On a grandi ensemble, on a chanté beaucoup, on a fait des tournées avec L'Enfant et les Sortilèges. C'était un collègue charmant en plus.
Voilà. Et alors, vous y...
Et dangereux en scène parce qu'il nous faisait rire.
Oui, c'est ça. Vous évoquiez tout à l'heure le nom de Gabriel Dussurgé. Il faut rappeler quand même que pour les artistes lyriques de votre génération, ça a été quelqu'un d'essentiel parce qu'on le retient aujourd'hui surtout comme directeur fondateur du Festival d'Aix-en-Provence, mais c'était beaucoup plus que ça, Dussurgé.
C'est lui qui a créé le directeur.
Mais c'était aussi le conseiller de l'Opéra de Paris et qui avait une grande influence dans le recrutement de la nouvelle génération.
Oui, c'est ça. Et ce qui fait que j'ai été engagée comme ça.
Voilà, et donc il a vraiment beaucoup compté dans votre carrière. Et puis il y a peut-être, en vous donnant notamment aussi d'ailleurs des rôles à Aix, notamment Rosine à vos débuts, je crois, souvent.
Non, oui, c'était la première fois que je chantais Rosine, c'était à Aix-en-Provence, oui.
Voilà.
Et puis derrière Berganza, c'était vraiment une grande responsabilité.
Évidemment, qui venait de connaître aussi ses débuts glorieux à Aix,
oui.
Berganza. Et puis un autre personnage qui, je crois, a quand même compté pour vous, c'était le directeur de l'Opéra de Paris de l'époque, c'était Georges Hirsch.
Georges Hirsch, oui. Voilà. Qui m'avait entendu, il m'a dit je t'engage, de toute façon, je t'engagerai pour faire des soubrettes.
Voilà. Ça vous allait bien ?
Oui, tout à fait. C'était tout à fait mon rôle.
Mais vous avez néanmoins continué à Paris à prendre des cours de chant, notamment avec...
Maria Branèse.
Maria Branèse, oui. Voilà.
Ah oui, je me suis toujours fait suivre, si vous voulez.
Votre carrière ?
Toute ma carrière, oui. Oui. J'allais toujours lui chanter ce que je chantais, oui, avant.
Ah oui.
Pour voir qu'elle entende s'il y avait des choses à corriger, toujours.
Toujours. Et ça a toujours été elle, votre...
Ah oui, mon coach, en
votre
fait.
Votre coach.
Oui, oui.
Janine Reiss aussi, la grande chef de chant.
Et aussi. Oui, j'ai travaillé avec Janine Reiss et Maria Branèse, qui était mon professeur de chant. Et voilà. Janine qui m'accompagnait.
Voilà. Alors, parmi les rôles, on en a déjà cité deux, la Dame Blanche et puis Mignon. Parmi les rôles vraiment emblématiques de votre carrière, en tout cas du côté de l'Opéra français, il y a aussi, évidemment, l'Acmé, mais pas le rôle de l'Acmé.
Non, j'ai beaucoup chanté. Il y a une chose que j'ai beaucoup chanté, je regardais hier en écoutant certains disques, j'ai beaucoup chanté les travestis, j'ai presque chanté tous les travestis.
Voilà.
Siebel, Stefano, Chérubin, les Huguenots, le Petit Pousset, tous les garçons.
Voilà, et puis, quelques femmes aussi quand même. Hein. Oui, et dans l'Acmé, Michaela.
Et dans l'Acmé, Michaela.
Voilà.
Mais c'était un rôle féminin, là.
C'était un rôle féminin et c'est un très beau rôle que vous avez, je crois, commencé à chanter avec Georges Prêtre.
Avec Georges Prêtre et Maddy Mesplé.
Et Maddy Mesplé.
Oui. Voilà. Mon copain de régiment.
C'est Maddy, c'est votre copain de régiment.
Ah bah oui.
Et vous l'avez chanté et enregistré également, alors quelques années plus tard, sous la direction de Richard Boninge.
Avec John Sutherland.
Avec John Sutherland. Oui. Et je propose qu'on écoute pour le plaisir ce merveilleux duo de l'Acmé, donc enregistré par vous-même en 1968.
Oh,
le duo Lakmé Malika par Jeanne Verdier et John Fitzgerald sous la direction de Richard Boninge. D'ailleurs, moi qui me plains parfois qu'on oublie un peu Léo Delibes, je suis content parce que ce duo ressurgit dans la publicité, au cinéma, régulièrement. C'est quand même une page magnifique, Jeanne
Verdier.
C'est
magnifique, oui.
Il doit y avoir une volupté à chanter
oui,
ça.
Moi, un grand plaisir. Oui,
un grand plaisir. C'est un donc des rôles que vous avez chantés à cette époque du début des années 60, où donc vous êtes dans la troupe de l'opéra et vous chantez alternativement à Favart ou à Garnier selon les œuvres.
Selon
que
les
vous
besoins, oui. Voilà. Oui. Si on chantait Lakmé, c'était à l'opéra comique, donc je chantais avec Maddy. Oui. À l'opéra comique, et si je chantais Cybèle de Fosse, c'était à l'opéra, et je chantais Cybèle à l'opéra.
Et alors, vous êtes attaché, comme vos amis de cette génération, je pense à Gabriel Baquier, à Robert Massard, pour parler d'eux qui sont encore parmi nous, à cette idée de la troupe qui aujourd'hui a un peu disparu.
Ah oui, c'est dommage, parce que c'était formidable. On se connaissait tous, oui. Et on faisait un très 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 bon travail. On connaissait les réactions des uns des autres, et moi ça me manque beaucoup. Et ça m'a beaucoup apporté du reste.
Oui, et la suppression a donc été plutôt une erreur, à votre avis.
À mon avis, oui.
Et vous pensez qu'on pourrait refaire des troupes
aujourd'hui ? On pourrait, oui, tout à fait.
Bah, en tout cas, voilà. Ce qui s'est passé aussi pour vous en France, Jeanne Verdier, qui est assez frappant, c'est que vous avez fait ces débuts brillants, Scala, Opéra de Paris, Aix-en-Provence, etc., dans un certain nombre de rôles, Mozart, Rossini, l'Opéra français, etc. Et puis finalement, c'est plutôt à l'étranger qu'est venu votre consécration au cours des années suivantes, parce que la France n'a pas vraiment suivi ce début si prometteur.
C'est souvent comme ça, vous savez.
Oui.
Bon, mais c'est bien comme ça.
Ça
m'a permis de voyager, ça m'a permis de faire d'autres connaissances, et c'est très bien. D'essayer d'apprendre un peu l'italien, l'allemand, et c'est parfait comme ça.
Il faut être reconnu à l'étranger pour être accepté en France.
Je crois, oui, je crois.
Voilà, en tout cas, c'est ce qui s'est produit pour vous à travers un certain nombre d'expériences et de lieux auxquels vous vous êtes attaché. Alors, on peut les mentionner.
Je pense que j'ai chanté quand même le rôle de Rosine, du Barbier de Séville, à La Scala, avant de le chanter à Toulouse.
Voilà, par exemple.
C'est incroyable.
Voilà. Alors, des liens se sont noués avec Salzbourg, par exemple.
Oui.
Et Karajan.
Et Karajan.
Racontez-nous un peu.
Bon, j'ai pas grand-chose à raconter, si ce n'est un merveilleux travail.
Oui.
Et puis, très heureuse de travailler avec ce grand chef d'orchestre, qui était quand même très, très précis, très pointilleux, et qui voulait la perfection.
Et fidèle, hein, parce qu'il vous demandait toujours pour les noces, par exemple, je crois, dans le rôle de Marceline.
Oui, toujours.
Il avait une grande fidélité.
Les noces, Carmen, oui.
Carmen également, oui, oui. Bien sûr.
Oui, ben, je faisais mon boulot, je faisais mon travail.
Un autre lieu important dans votre carrière, ça a été Glyndebourne.
Glyndebourne, oui.
Un petit peu plus tard, en 1967.
Non, c'était
67.
Même avant. Oui, c'était même avant. J'avais chanté L'Ormindo de Cavalli, là.
Ouais.
Mais c'est une ambiance extraordinaire, unique au monde. Et je dis à tout le monde d'aller à Glyndebourne, entendre un spectacle et voir comment ça se passe. On est en famille là-bas. Oh, il y a du courant d'air tout à coup.
L'Ormindo de Cavalli, ça veut dire qu'une artiste comme vous qui chantait le grand répertoire lyrique commençait aussi à aller explorer la musique baroque.
Oh, mais il faut.
Ouais.
Je crois que c'est un devoir même.
Ouais.
Non, vraiment, on va prendre froid. Merci.
Voilà, c'est réglé le problème des fenêtres. À la librairie Ombre Blanche à Toulouse, nous sommes toujours, semble réglé. Et je suis toujours donc avec Jeanne Verdier. Un autre souvenir important dans cette dimension internationale de votre carrière, c'était Carnegie Hall en 1965.
Mais ça, c'était extraordinaire. Ouais. Avec Montserrat Caballé et Alain Vanzo. Et nous chantions tous les trois pour la première fois à Carnegie Hall.
Ensemble, en opéra-concert.
En opéra-concert, oui.
Voilà.
Je dois dire que ça a été un très grand succès.
Dans Lucrezia Borgia. Hein.
La Lucrezia Borgia est un triomphe pour Montserrat Caballé.
Voilà. Et pour vous-même aussi.
Oui, enfin bon, on était ensemble, si vous voulez, mais elle a vraiment eu un triomphe.
Et vous êtes restée d'ailleurs amie, c'était une femme très sympathique,
je crois,
et
chaleureuse. C'était quelqu'un de très chaleureuse, oui. Et drôle. Elle riait, c'était incroyable.
Voilà. Alors,
et elle me manque beaucoup.
Elle nous manque à tous, mais on va vous retrouver alors avec quelques-uns de vos amis, là encore, si on peut dire, de cette génération, et notamment avec Gabriel Baqui dans Cosi, dans Despina, sous la direction de Georg Solti.
Ah oui.
Une œuvre que vous avez beaucoup chantée aussi.
Beaucoup, oui.
Voilà.
Je chantais les deux rôles, Dorabella ou Despina.
Ou Despina.
Oui.
Et là, c'est donc l'enregistrement
Je préfère Despina.
C'est plus dur, plus méchant.
Pas méchante, elle est... Enfin, c'est un beau rôle.
Un beau rôle.
Ouais.
Vous aimez jouer le théâtre autant que chanter la musique ?
Tout à fait. Tout
vous,
à fait.
Vous aimez prendre l'allure de personnages pas forcément sympathiques ?
Oui, tout à fait.
Aussi. Et pourtant.
Un peu méchant, oui.
Alors, on vous retrouve donc dans cet ensemble de Cosy avec Gabriel Baquet et quelques autres sous la direction de Georg Solti.
Alla bella de Spinetta, vi presento amici miei, non dipende che da lei consolar il vostro
1974, Così fan tutte, dirigé par Georg Scholti, avec donc notamment Jeanne Verbier, Gabriel Baquet, qu'on salue s'il nous écoute aujourd'hui. Il est un familier de cette émission également. Et Jeanne Verbier, qui est avec nous aujourd'hui donc à la librairie Ombre Blanche. On parlait à l'instant de l'importance des troubles, de leur disparition, de ce qu'on a appelé parfois après l'ère Liberman à l'Opéra de Paris. Alors, il faut dire que vous le connaissiez déjà, je crois, Rolf Liberman, oui, parce que vous aviez chanté à Hambourg.
Oui, j'ai chanté plusieurs choses à Hambourg, notamment Le Barbier, oui. Et puis Zerline, Don Juan, et puis après j'ai retrouvé à Paris.
Voilà, il était donc directeur à l'époque de l'Opéra de Hambourg. Voilà. Il est arrivé à Paris, il a fait la réforme que les lyricomanes connaissent, qui a été diversement jugée, en général plutôt positivement, positive, mais il y a aussi un certain nombre de critiques, notamment par rapport à la disparition de la troupe. Alors, il faut dire que vous, Jeanne Verbier, bah, comme Baquier d'ailleurs et quelques autres, vous faites partie de ceux qui ont donc continué à chanter régulièrement
oui,
à l'opéra.
Tout à fait, oui. Voilà. Et nous faisions partie de la troupe. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la troupe.
Oui, c'est ça, oui. Parce que d'autres ont un peu disparu à ce moment-là, et d'où peut-être les...
Je ne sais pas comment.
Comment vous évaluez ? Bonjour Christophe Gristy.
Bonjour Benoît.
Le directeur du Capitole, qui nous fait plaisir d'être là aujourd'hui autour de Jeanne Verbier. Vous avez beaucoup réfléchi vous, sur cette réforme Liberman, vous avez écrit là-dessus. C'était une bonne réforme ou une mauvaise réforme ?
Écoute, je crois que c'était une bonne réforme. Il est normal d'ailleurs que dans une troupe de chanteurs, certains apparaissent, certains disparaissent. Ouais. C'est parti de la vie. Mais du temps de Liberman, il y avait beaucoup de très grands chanteurs français
au Palais Garnier.
Absolument. Suzanne Sarroca, Jeanne Verbier, bien sûr. Enfin, beaucoup de grands chanteurs français. Van Damme, qui n'est pas...
Il était français,
en quelque sorte.
Quasiment, oui, bien sûr.
Quasiment. Oui. Donc, c'était une bonne réforme. Et puis, c'était une avancée aussi dans la... Quand on voit quand même ce qui se passait à l'opéra avant Liberman, il y avait un rétrécissement du répertoire, notamment, qui est assez spectaculaire. Et là, il y a vraiment une internationalisation, des grands metteurs en scène qui arrivent, comme Streller. Enfin, on peut pas...
Mais la troupe ne fonctionnait plus au sens des troupes de théâtre qui avaient existé jusqu'alors.
Le théâtre...
Mais il avait créé ça, une espèce d'entente entre nous. Et c'était souvent les mêmes qui rechantait, et c'est très important.
Bien sûr.
Il faut faire une espèce de famille.
Oui, c'est ce que j'essaie de faire au Capitole.
Oui, vous avez raison.
On va reparler du Capitole dans un instant, et puis vous allez nous parler un peu plus de Jeanne Verbier, mais je voudrais qu'on écoute encore une page extraite du Carmen que vous avez enregistré sous la direction de Georges Prêtre avec Maria Callas et que vous avez je ne sais pas si cela évoque pour vous des souvenirs particuliers ces échanges avec Callas.
Tout le monde redoutait Callas, mais elle est charmante, elle a été charmante.
Oui.
Bon, elle a voulu me faire un petit changement dans un ensemble.
Bon, d'accord.
Mais j'ai dit non, mais elle n'a pas insisté.
Voilà, cet enregistrement donc on peut dire. Presque légendaire.
Non, mais elle était charmante.
De 1964, on va vous retrouver dans le trio des Sistres avec Nadine Sautreau et Maria Callas sous la direction de Georges Prêtre.
L'étreinte des Sistres tintait avec un éclat métallique et sur cette étrange musique les dingueries se levaient. Dans pour de basse calait leur train et les guitares forcenées grincées sous des mains obstinées et mes chansons et mes refrains mes chansons mes mots refrains
Run!
rythme de la chanson, sous le rythme de la chanson, à le temps de voleuses en fébril, et les sulicites en hiveril.
Et Jeanne Verbier qui applaudit aussi Maria Callas et Nadine Sautreau, et Georges Prêtre, que vous aimiez beaucoup.
En plus, c'est une musique extraordinaire.
Voilà, une musique étonnante, hein, avec cette fin complètement folle, presque.
C'est super.
Oui. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin, Jeanne Verbier. Merci d'être avec nous, Christophe Gristy. Vous êtes Toulousain, aujourd'hui directeur de l'Opéra du Capitole, mais vous avez été longtemps Toulousain aussi avec Nicolas Joël pendant de longues années. Donc vous êtes un quasi-Toulousain.
Quasi.
Comment est-ce que vous avez rencontré Jeanne Verbier et qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans votre
Sans trahir l'intimité de Jeanne, elle habite tout près du Capitole. Ouais. Et avoir cette figure tutélaire avec nous, devant nous, franchement nous protégeant, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et Jeanne vient très souvent en représentation, avec une passion et un enthousiasme magnifique. Si je peux juste raconter une petite anecdote, récemment nous avons fait La Ville Morte de Korngold, et Jeanne m'a demandé avant les représentations la partition chant piano pour pouvoir travailler un peu avant de venir aux représentations. Qu'elle, avec tout ce qu'elle a chanté, avec sa connaissance de la musique, qu'elle cherche toujours à apprendre à un opéra qu'elle maîtrise moins qu'un autre, je trouve ça tellement extraordinaire comme démarche. Et elle est tellement passionnée parce que quand nous avons fait Ariane et Barbe Bleue, il y avait une de ses grandes disciples, Sophie Coche, qui chantait le rôle titre. Elle était présente en permanence. Je trouve ça merveilleux de l'avoir avec nous et à nos côtés.
C'est gentil, je vous remercie beaucoup.
Non, c'est vrai, c'est sincère.
Jeanne Verbier, vous partagez votre vie entre l'appartement et l'opéra.
Quoi. Exactement. Maintenant, vous savez tout.
À peu près. Mais vous avez conscience, vous aussi, Christophe Gristy, je posais la question à Jeanne Verbier, à ses tout débuts, qu'elle disait que ce n'était pas très important pour elle, qu'elle voulait juste chanter, mais vous, d'être dans ce qu'on peut appeler la capitale française du chant, du beau chant. Bel canto.
Ah oui, bien sûr, parce qu'on est sans cesse, en fait, parce qu'on essaie sans cesse de maintenir un très très haut niveau. De chant, c'est un travail quotidien. Hein.
Et cette ville qui a, faut le rappeler aussi, fourni de très très grands chanteurs à l'histoire lyrique que vous connaissez mieux que quiconque.
Tout à fait, Janine Michaud, Jeanne, Amadi Mesplet, Carcassonne, Suzanne Sarroca, enfin, il y a un grand nombre de chanteurs qui sont nés par ici.
Mais Michel Sénéchal me disait que c'était à cause de l'accent, que c'est l'accent qui fait qu'on devient des grands chanteurs.
Je ne sais pas. C'est possible.
C'est possible. Ça change un peu la façon de parler, de prononcer.
Non, mais c'est vrai que toute une génération de chanteurs venait du Sud. Entre Marseille et Toulouse.
Ou du Nord, parfois.
Ou du Nord, absolument.
Et de la Belgique.
Oui, absolument, c'est vrai.
Voilà. Ouais. En tout cas, on va retrouver tout de suite Jeanne Verbier. Alors, dans un répertoire plus moderne, là, puisqu'il s'agit de L'Enfant et les Sortilèges, Merveilleuse page du duo des chats avec Camille Morane.
Oui. Ça vous convient ?
Sous la direction de Laurine Mazel.
Ah, oui. C'est magnifique.
Un très bel enregistrement de 1961. L'enfant et les sortilèges. Jeanne Verbier, toujours ici. Avec Camille Morane, un chanteur que j'aimais beaucoup aussi. Okay. Et avec qui vous avez chanté donc, dans cet enregistrement, on peut dire, de référence, hein, sous la direction de Laurine Mazel, avec l'Orchestre National de la Radiodiffusion Française, comme il s'appelait à l'époque. Alors, j'aurais pu passer un autre duo des chats, Jeanne Verbier, parce que vous en avez enregistré un en 45 tours avec votre ami Maddy Mesplé.
Exactement, oui.
Et c'est celui de Rossini.
Oui, c'est celui de Rossini.
Voilà. Maddy, dont vous disiez tout à l'heure qu'elle était votre camarade de régiment.
C'est mon copain de régiment.
Votre copain de régiment.
Oui, c'est mon copain de régiment parce que nous sommes exactement du même âge.
Oui. Et vous l'avez rencontrée pour la première fois où, quand, comment?
À Toulouse, c'est-à-dire elle a été mon accompagnatrice. J'ai obtenu mon prix à Toulouse et elle était
avec Maddy au piano.
Avec Maddy au piano. C'était une musicienne extraordinaire.
Extraordinaire, c'est vrai.
Oui, très très grande musicienne.
Et moi, je suis très heureux qu'on puisse la saluer parce qu'elle est toujours à Toulouse, d'ailleurs.
Elle est toujours à Toulouse.
Et elle fait partie de votre bande, parce que vous avez d'autres amis qui sont venus là aussi aujourd'hui. Hein. Vous avez un petit groupe.
Oui.
Très joyeux.
Exactement.
Et voilà, Maddy Mesplé, j'ai eu le plaisir de la recevoir plusieurs fois et je voulais pas qu'on l'oublie aujourd'hui.
Et je l'embrasse bien fort.
Vous l'embrassez bien fort et je propose qu'on la retrouve avant d'écouter la jeune Anaïs Constant, termine cette séquence avec quelques mesures et même quelques minutes de Maddy Mesplé dans un extrait de la Manon Lescaut d'Aubert. Manon Lescaut d'Aubert avec Maddy Mesplé, merveilleuse Maddy Mesplé, cette voix incroyable quand elle grimpe très 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 haut comme ça, Maddy Mesplé, Aubert, le répertoire d'opéra comique. Je me demande d'ailleurs, Christophe Gristy, si ce répertoire a sa place, disons, par rapport à l'espace qu'est le théâtre du Capitole de Toulouse. Est-ce que vous comptez, dans les années qui viennent, le mettre un peu à l'honneur ?
Sans doute, oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes... mais en fait, le répertoire est gigantesque, si vous voulez. Et il y a justement la richesse du Capitole, c'est d'avoir aussi beaucoup de traditions différentes. C'est-à-dire les grands Verdi ont leur place, les grands Wagner et grands Strauss. Il y a aussi une tradition straussienne et wagnérienne. Il y a cette tradition de l'opéra français. On a fait, en mai-juin, Mlle Nitouche, puis Werther, donc deux piliers du répertoire français extrêmement différents l'un de l'autre. Voilà, il y a tellement de choses à faire.
Donc il faut deuxième théâtre à Toulouse.
J'adorerais. Mais en tout cas, j'essaie d'en faire le plus possible, évidemment. Mais j'adore d'équilibrer tout ça. On a besoin de Mozart, on a besoin de Puccini, on a besoin de Verdi, on a besoin de Wagner, on a besoin du répertoire français.
Et malgré tout, le nombre de productions est limité. Exactement, on a besoin de Paul Dicca.
Voilà, donc c'est...
Voilà, en tout cas, on espère que vous n'oublierez pas nos grands compositeurs au cours des prochaines années. Et on va retrouver dans un petit instant une artiste qui a beaucoup à voir aussi avec la vie lyrique toulousaine.
France Musique, en direct de Toulouse.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Parce que je le disais, Toulouse est la ville du chant, et Toulouse est notamment la ville du chant en ce moment avec ce concours que vous organisez à l'Opéra, au Capitole, le 52e concours de chant de Toulouse.
Et la finale a lieu ce soir. Nous avons reçu 504 candidatures.
Oui.
Une centaine de jeunes chanteurs ont été appelés, 75 étaient présents, et puis ce soir il y a 10 finalistes.
C'est Béatrice Uriamonzon qui préside le jury,
absolument, qui après est composé de directeurs d'opéra,
c'est-à-dire de gens. Parce que c'était la tradition de ce concours, c'était qu'il y avait plein de directeurs qui venaient pour repérer les artistes.
Et leur signer des contrats.
Oui, oui. Et leur signer des contrats, vraiment.
Il faut que ce soit quelque chose de très concret, je trouve, un concours. Et c'est très bien d'avoir un prix, mais c'est surtout très bien de repartir avec quelques contrats en poche.
Bien sûr.
Voilà. Donc, et ce sera le cas parce que chacun des sept directeurs qui sont là a déjà fait son marché.
Ah, Jeanne Verbier, vous allez suivre la finale ce soir ?
Je ne sais pas si je pourrais.
Bon, mais vous suivez le concours d'une façon régulière.
Ah oui, certainement.
Et vous suivez les jeunes artistes toulousains.
Je donne toujours des cours, je fais. Oui.
Voilà.
Alors pourquoi non ?
Alors vous connaissez Anaïs Constant ?
Mais bien sûr. Je la suis depuis le début.
Depuis le début.
Et je l'aime depuis le début.
Vous l'aimez depuis le début. Elle est avec nous ce matin pour participer à cet hommage qu'on vous rend. Et puis pour le plaisir de l'entendre. Enfin, elle est déjà plus que remarquée. J'imagine Christophe Gristy, vous la connaissez également. D'ailleurs, elle avait emporté le prix du public à ce même concours.
Absolument. Oui. Et puis, Anaïs a devant elle au Capitole deux prises de rôle, je crois, considérables. Une dans quelques mois qui est Blanche de Dialogue des Carmélites. Donc. On peut pas faire un peu plus important. Et puis une autre chose qu'on peut pas révéler aujourd'hui, mais je crois qu'elle est très importante pour elle la saison suivante. Très beau projet.
Elle nous fait la joie d'être avec nous ce matin avec Nino Pavlenichvili au piano, et on va les entendre tout de suite dans « Ak Loris » de Reynaldo Hahn.
À Cloris, une belle mélodie de Reynaldo Hahn sur un poème de Théophile Deviau, donc par Anaïs Constant avec Nino Plavanichvili au piano. Bonjour Anaïs Constant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Christophe Gristy nous disait à l'instant que vous aviez des horizons radieux sur la scène de l'opéra, mais vous avez aussi des affinités particulières avec le répertoire de mélodies françaises, pour lequel vous avez même été déjà couronné.
Oui, bien sûr, j'ai eu l'immense privilège de remporter le premier prix Mélodie française au concours de Mélodie française de Toulouse.
De Toulouse, encore un concours de Toulouse.
Exact,
voilà.
Et puis au concours à l'opéra, j'ai eu l'expérience de chanter de la mélodie. Et j'étais également accompagnée par Nino Pavlenichvili à ce moment-là, donc lors du 49e concours.
Voilà, l'indispensable pianiste toulousaine, d'après ce que j'ai compris, et qu'on est très heureux de recevoir aussi aujourd'hui. On ne va pas trop vous fatiguer, parce que je crois que vous chantez aujourd'hui même.
Je suis en répétition ensuite, et je fais un concert de mélodie française, justement, demain à Duras, avec l'Orchestre symphonique de Marmande, sous la direction de Philippe Mestre.
Voilà, alors c'est vraiment gentil d'être revenu avec nous ce matin, mais je voudrais quand même que vous nous disiez un mot de Jeanne Berbier. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Elle représente beaucoup de bienveillance, beaucoup de bons conseils. C'est vrai que vous me suivez depuis le tout début, toujours avec des remarques avisées, des remarques gentilles, mais aussi des fois peut-être des moins agréables, mais qui construisent un chanteur et qui sont indispensables. Je voulais éventuellement prendre des cours avec Jeanne lorsque j'étais au conservatoire, ouais. Mais elle m'a toujours dit que j'avais une excellente professeure qui s'appelait Claudine Ducré et qu'elle trouvait que j'étais entre de très bonnes mains, donc elle ne me donnerait pas de cours. Mais par contre, à chaque occasion, à chaque concert, elle vient me voir et elle me donne toujours des conseils oui, qui sont constructifs.
Quand on a un bon professeur, on le garde.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que ça fait 15 ans que je travaille avec, déjà.
Mais l'enseignement, c'est très important pour vous, Jeanne Berbier, déjà depuis longtemps, puisque vous avez enseigné, il faut le rappeler, au Conservatoire de Paris d'abord, oui. Et ensuite, aujourd'hui,
à Toulouse.
Et Sophie Koch, et Marie-Ange Todorovitch, et quelques autres, sont passés Nicolas par Courjal. Vos excellentes mains. Pardon.
Nicolas Courjal aussi.
Également. Alors, merci en tout cas Anaïs Constant, vous allez encore nous faire le plaisir de nous chanter deux petites mélodies de Poulenc qui forment un tout en fait,
oui, hein,
puisque ce sont les deux poèmes de Louis Aragon, C'est et Fête Galante, dans lesquels on vous retrouve tout de suite pour notre plus grand plaisir devant le public de la librairie Ombre Blanche à Toulouse.
Thank you.
Bravo et merci à Anaïs Constant avec Nino Pavlenitchvili dans ces deux poèmes de Louis Aragon, de Francis Poulenc. Le Poulenc vous paraît au point avant les dialogues des Carmélites.
Je suis persuadé, on a déjà pas mal travaillé.
Christophe Gresti.
En France, on a beaucoup de soprano léger, oui, ou de lyrique léger. On a peu de soprano lyrique et donc il faut veiller absolument sur Anaïs et la protéger, lui donner les bons rôles parce que c'est une denrée très rare. D'avoir une Mimi, d'avoir une, dans quelques années sans doute une Butterfly, ça c'est formidable.
Et on comprend tout, je le dis encore, c'est pas si fréquent.
Absolument.
Non plus chez les sopranos. Ouais. Christophe Gresti, un mot juste de ces dialogues des Carmélites, ce sera au mois de novembre. Hein.
C'est au mois de novembre, nous reprenons la production extraordinaire d'Olivier Py qu'il avait créée au Théâtre des Champs-Élysées, mais avec une distribution complètement nouvelle et notamment des prises de rôle. Donc Anaïs Constant en blanche, Jody DeVos qui fera sa première Constance. Voilà, donc une belle distribution.
Et auparavant, ce sera La Norma dans pas très longtemps, à la fin du mois de septembre.
L'ouverture de saison avec Norma, avec Karine Dehé, Marina Rebecca. Et Martine Mull.
Et donc dans la salle, Jeanne Bervier.
Dans la salle, Jeanne Bervier.
Jeanne Bervier, on va bientôt se quitter. Mais je voudrais... Enfin, ça m'a frappé quand on a parlé au téléphone. Vous m'avez dit, si je recommençais ma carrière aujourd'hui, je ferais de l'opérette.
Oui, j'adore l'opérette. Parce que j'ai envie de rire.
Oui.
J'adore rire et puis j'adore m'amuser, en fait.
Oui.
Mais j'ai adoré l'opéra. Hein.
Oui, bien sûr. Non, ça, je n'en doute pas. Mais vous avez un faible pour Offenbach, par exemple.
J'adore Offenbach.
Que vous avez chanté, d'ailleurs, au Théâtre de Paris, dans la Péricole.
Non, je n'ai pas chanté au Théâtre de Paris. J'ai fait la télévision, seulement.
C'était le tournage du spectacle du Théâtre de Paris, pardon, oui. Et c'était donc La Péricole.
La Péricole, oui.
Voilà. Et d'ailleurs, Jean-Claude Casadesus, à qui j'en parlais, vous transmet ses amitiés parce que c'est lui qui était le jeune
Bisous
chef à la baguette. Et voilà, c'était un des Offenbach que vous avez chanté. Je sais que vous adorez aussi, par exemple, la comédie musicale, que vous êtes fan de Barbara Streisand.
J'adore.
Ah oui.
Barbara Streisand, oui.
Voilà.
J'ai tous les disques de Barbara Streisand.
Voilà.
Je trouve que c'est une grande personnalité.
Voilà, alors avant.
C'est ce que j'aurais voulu faire, en fait.
Vous avez fait fausse route. Ah zut, alors.
J'ai mal tourné.
Vous avez mal tourné.
Voilà.
Et bien, pour le plaisir, on vous retrouve. Puis
vous voyez, monsieur le directeur, un rôle, comédie musicale.
On vous retrouve dans un petit extrait de L'Orphée aux Enfers du même Offenbach, dirigé par Michel Plasson. Et comment ne pas évoquer aussi ce cher Michel Plasson qui a tant fait pour la musique française, pour l'opéra comique et pour l'opérette dans cette ville de Toulouse. On vous retrouve donc Jeanne Bervier, oui, dans Orphée aux Enfers.
Je sais un autre strata, je...
Offenbach par Jeanne Verbier, Orphée aux Enfers, en attendant peut-être que vous remontiez sur scène pour nous enchanter un de ces jours. Quand on vous voit, on pourrait les presque l'imaginer.
Oui, je crois, mon âge, là, maintenant, j'en suis terminé, là, voyez-vous.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Christophe Gristy.
Bon, merci à vous.
Et j'espère que tout va bien se passer ce soir, donc pour ce concours de chant, et qu'on aura un beau ou une belle lauréate à découvrir dans les prochaines distributions de Toulouse et d'ailleurs.
France Musique, en direct de Toulouse.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et dans le petit quart d'heure qui nous reste, je voulais qu'on évoque Claude Nougaro, autre grande figure toulousaine, qui en plus a un lien direct avec l'actualité, on va le voir dans un instant. Mais puisque Jeanne Verbier est là, j'ai voulu commencer par un petit document sonore qui amusera les auditeurs, qui ne vont pas forcément voir tout de suite le rapport avec Claude Nougaro, mais on va vous l'expliquer.
Après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Le cœur joyeux pour gonfler d'espérance, ils ont suivi la gloire qui les conduit. Sur une France, une croix de Lorraine, et qui son or comporte fièrement. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments. De faire, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, salut en château bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant. DB, vive la deuxième DB.
Mais qu'est-ce que ça fait là dans ce programme, la marche de la deuxième DB, hein, on se demande vraiment. Jeanne Verbier, je vous l'explique, c'était le père de Claude Nougaro.
Oui.
Pierre Nougaro.
Pierre Nougaro.
Vous l'avez connu, hein.
J'ai connu, j'ai chanté avec lui.
Vous avez chanté avec lui.
Mais oui. Enfin, lui en fin de carrière et moi je débutais.
C'était une grande figure de la vie musicale toulousaine, oui. Et dans d'autres villes où il a été ensuite directeur.
Directeur à Compiègne, je crois, non ? Je ne me rappelle plus.
À Besançon. Non. Bonjour Cécile Nougaro.
Et à Rennes aussi.
Ah oui.
Voilà, bonjour. Et à Rennes. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous l'avez connu, votre grand-père ?
Ah ben, je veux.
Oui. Il chantait encore ?
Oui, par moments, bien que sa voix, évidemment, était pas tout à fait la même, mais c'est un homme... étonnant de par sa carrure et son aura. Enfin, c'est un être très très surprenant.
Et le lien avec son fils Claude, musicalement, était fort ?
Oui, très fort. Et c'est son père qui lui a, comment dire, qui lui a fait se poser, j'imagine, l'hésitation de se mettre à chanter lui aussi, puisque ouais. C'était une voix. Enfin voilà, il y a une transcendance et une intensité tellement grande dans toutes ces voix fortes et qui expriment des rôles. Et donc voilà, ça met une pression presque impossible à relever.
Et donc Claude aimait l'opéra et Pierre aimait la chanson.
Et oui, voilà. à travers les musiques, ils se sont beaucoup aimés.
Ils se sont beaucoup aimés. Merci en tout cas, oui, d'être avec nous, je le disais, ce matin, à propos notamment d'une actualité, de l'ouverture d'une maison Claude Nougaro à Toulouse. Vous allez nous en parler parce que c'est une affaire qui tourne depuis longtemps et qui aboutit enfin.
Oui.
Et Marc Ouvringer va nous rejoindre pour évoquer cette actualité toulousaine et nougaresque. Mais commençons par une chanson que vous aimez, je crois, beaucoup, comme l'Hirondelle.
Ah oui.
Je voudrais écrire comme l'hirondelle, dans un cri perçant, un chant vraiment neuf, m'accoucher de toi, langue maternelle. Jusqu'à neuf et sortir de l'œuf. Je voudrais écrire comme l'hirondelle, un hymne à la vie quand descend le soir. Au soir de mes jours, mettre l'étincelle et le feu au cul d'un immense espoir. Comme l'hirondelle, comme l'hirondelle, comme l'hirondelle, je voudrais épire comme l'hirondelle. Petite encre noire, plus belle qu'un avion, je voudrais écrire une histoire, celle des beaux jours lorsque nous avions, comme l'hirondelle, tout l'espace à nous tout le temps. Je voudrais l'écrire pas comme un savant, je voudrais l'écrire comme l'hirondelle. Dans un cri perçant, ivre de ciel clair, de mes longues ailes, de ma fine fourche, je voudrais écrire, libre comme l'air, les mots virginaux que rêvait ma bouche.
Claude Nougaro, en 1997, quelques années avant sa disparition, mais rayonnant dans cette chanson que vous aimez particulièrement, Cécile Nougaro.
Oui, beaucoup, et la chute, je vous invite à l'entendre.
Voilà, on la réécoutera entièrement. Je vous ai épargné Cécile, ma fille, qui est une belle chanson aussi.
Merci beaucoup.
Et merci à vous d'être avec nous ce matin, oui, pour parler de cette maison Claude Nougaro. Et Marc Voinchet, tenez aussi beaucoup à nous rejoindre sur le plateau à cette occasion, parce qu'il est toulousain, parce qu'il aime Nougaro, parce qu'il est directeur de France Musique.
Je suis le régional de l'étape.
Le régional de l'étape.
Voilà, oui, moi je ne suis pas très loin, on est un peu cousins, non, Jeanne Berbier. J'ai beaucoup de famille à Montgiscard.
C'est du Lauragais aussi.
Non, je voulais juste dire un mot, remercier infiniment toutes les équipes de tous nos partenaires qui nous ont aidés à monter cette journée. C'est vrai qu'on avait envie de souffler ces 40 bougies de piano aux Jacobins, ce qui ne nous rajeunit pas, ou en même temps qui nous rajeunit. J'ai un peu l'impression d'avoir 17 ans et demi avec Catherine Dargoubet, Paul-Arnaud Péjouan, Thierry, d'évoquer tout ce périmètre assez magique, parce qu'au fond, quand on est un jeune homme à Toulouse, il y a quand même des endroits, c'est pas très grand, et donc vous allez de la Lograin au Capitole, vous allez au Cloître des Jacobins, vous passez par Rambaud-Blanche, vous avez la Cinémathèque pas loin, il y a un périmètre qui vous incite complètement à être plus intelligent que vous ne le seriez, voilà, et vous rencontrez des gens. Et donc c'est là qu'on apprend la musique, c'est à la Lograin que j'ai vu évidemment Claude Nougaro, une fête de la musique mémorable où Pierre Bouteiller était dans la salle, qu'on salue aussi, c'est là que mon père m'a amené voir Dizzy Gillespie, c'est grâce au Cloître des Jacobins et à piano que j'ai vu un nombre de gens incalculables, et le vieux Perlmutter qui avait serré la main de Ravel quand même, et pas que, voilà, et d'autres, et des Alicia de la Rocha et des Xifra, voilà. Voilà, et donc c'est vrai qu'on est très ému d'être là, parce qu'aussi on voulait, il faut remercier Frédéric Lodéon qui nous a dit: tu devrais appeler Cécile Nougaro.
Voilà, ça s'est passé comme ça, il faut le souligner.
Et puis je voudrais remercier aussi nos amis donc d'Ombre Blanche, de la Dépêche du Midi, et tous les camarades techniciens de Radio France qui font un boulot exceptionnel.
Alors, effectivement, notre ami Frédéric a eu cette excellente initiative que vous avez relayée, Marc, et donc j'ai appelé avec joie Cécile Nougaro, parce que, dites-nous en quelques mots, on a encore quand même quelques minutes, ce que c'est que cette histoire de la maison Nougaro qui ouvre dans quelques jours à Toulouse.
Et c'est une histoire humaine de rencontres et d'élan, d'énergie par rapport à mon père qui lui en était plein d'énergie. Oui. Et c'est un lieu, moi j'aime bien l'appeler musée homme avec un H, oui, puisque ça rassemble tous les potentiels, enfin toutes les capacités humaines, et justement la musique et l'art dans toute sa splendeur, il trouve sa place puisqu'on y trouve des... Tout ce qui concernera, j'ai la bouche super sèche, je suis désolée, je suis un peu émue.
Ça se passe, à propos de bouche sèche, ça se passe sur l'eau, hein, il faut préciser.
Oui,
hein.
J'irai en boire dans pas longtemps de l'eau du canal. C'est sur l'eau, c'est un bateau.
Au début du canal du Midi.
C'est au kilomètre zéro du canal
kilomètre
du Midi.
Kilomètre zéro du canal du
au
Midi.
Au pont Jumeau. Voilà. Et c'est un lieu sur la création, fait sur mesure pour mon père.
Sur l'eau verte du canal du Midi.
Oui, exactement.
Donc ça n'est pas vraiment un musée, Nougaro.
Non, justement,
hein.
c'est ce que vous ne vouliez pas, d'ailleurs. Ça a pris tant de temps. c'est que c'est très difficile d'élargir les lignes, d'aller voir ailleurs si on y est. Et papa, il a toujours, il s'est toujours, comment dire, étonné lui-même, oui. Parce que c'était un besoin aussi pour étonner les autres. Il fallait oser un lieu qui n'existe pas encore, c'est pour ça que ça a pris du temps. Et à l'intérieur, on y trouve, c'est plein comme un œuf. Tout tient dans la cale, parce que voilà, le projet va être évolutif. Et pour l'instant, on y trouve des expos, il y a un bar, une scène.
Il vous reste sortir de la place pour venir faire des émissions de France Musique en direct.
Ah, ça, ce serait merveilleux.
Charles Benoît.
Ben, allons-y, un spécial Nigaro, par exemple. Pourquoi c'est l'année, parce qu'il aurait eu 90 ans cette année, vous le savez.
Le oui, 9. C'est ouais. Une année neuve.
Oui. Alors, bravo, parce que il faut dire que le projet, moi j'ai regardé les coupures de presse, il y a un an on annonçait l'ouverture de la maison, puis un an a passé, puis on l'annonce à nouveau, là c'est pour de vrai.
C'est, oui, ça, c'est ça qui est en ce moment très réjouissant, c'est que c'est vrai.
Mais grâce aussi à un financement participatif
oui,
hein,
tout
qui nous a aidé dans ce...
De nombreuses personnes nous ont épaulés, et j'ai une équipe du Feu de Dieu avec qui je travaille depuis le début. Et on sait pourquoi on se bat et vers quelle justement transcendance on veut aller, de faire que la création soit bien là.
Vous-même, vous étiez éloignée de Toulouse, vous êtes revenue à Toulouse.
Jamais,
vous n'avez jamais été toulousaine, contrairement à votre père.
Pas du tout.
Vous êtes toulousaine d'adoption.
Oui, je suis revenue pour retrouver mon père, mais je ne savais jamais, je pensais imaginer ni même créer un lieu. Pour lui, ça c'était quelque chose que j'avais jamais imaginé.
Il faut préciser aussi d'ailleurs à nos amis discophiles qui pourront écouter pour le coup comme l'Hirondelle en entier, qu'il y a une discographie intégrale
oui.
Qui sort en ce moment, la première
sort,
de tous les albums studio de Claude Nougaro.
Et c'est un très bel, très 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 beau coffret, vraiment beau.
Alors on peut se rendre quand
Dès jeudi.
Dès jeudi, voilà.
12, ça rime avec Toulouse.
Voilà. Et ça s'appelle donc
La Maison Nougaro sur l'eau.
La Maison Nougaro sur l'eau, ouverture jeudi, vous
oui.
Y serez.
Bien sûr.
Et
le soir, il y a déjà un cabaret surprise qui va se déployer, puisqu'on peut aussi manger et découvrir des gens.
Eh bien, merci beaucoup, Cécile Nougaro, d'être venue nous en parler. J'espère qu'on en reparlera sur place. On va se quitter avec une chanson assez extraordinaire de Claude Nougaro, Locomotive d'or. Hein, c'est cet album de 1973 avec Maurice Vandem, aussi des musiciens africains. Quelques mots sur cette chanson que vous aimez beaucoup. Je crois qu'on ne va pas entendre en entier, mais parce qu'elle dure 9 minutes 50.
Oui, ben voilà, je m'en doutais qu'elle ne passerait pas en entier. Mais ben, cette chanson, elle est le rythme en soi, quoi. C'est le rythme cardiaque, le rythme africain, le rythme de la vie.
Voilà, merci Cécile Nougaro, merci Christophe Gristy, merci Marc Ouvrinchet.
Il faut rappeler quand même que Jeanne Berbier, on peut l'écouter beaucoup plus longuement encore que chez vous. C'est sur l'un goût.
Alors c'est Judith Chen, absolument, c'est la semaine
septembre.
Du 23
voilà.
Septembre. Pardon de l'avoir oublié, Judith qui a rencontré longuement Jeanne Berbier et qui va nous proposer ses grands entretiens pendant toute une semaine.
Et je veux mettre le bazar devant ton conducteur, il faut aussi rappeler qu'on peut réécouter jusqu'au mois de décembre le sublime concert d'hier soir avec Alexandre Kantorov, mais c'est pas des mots en l'air, c'était vraiment extraordinaire. Et qu'on pourra aussi ensuite, et ce soir on est en direct, avec Jackie Terrasson, toujours du cloître des Jacobins et les 40 bougies des Jacobins.
Merci Marc Vincher, merci Jeanne Berbier
merci à vous.
D'avoir été avec nous ce matin
merci
à
beaucoup.
La librairie Ombre Blanche. Et merci à tout le public.
Que bondir à ton bord me donna même joie qu'au sexe de la femme. Mon corps ne m'aidait plus qu'à survoler mon corps. Ma chair devint esprit et mon âme tam 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 tam. Tam tam, oui oui, tam tam tam, tam tam tam, tam tam tam, tam tam tam, partout dedans, dehors. Yeah yeah yo yo, yeah 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 yo yo, yeah yeah yo yo, yeah yeah yo yo, et de toutes ces dents. Succulente banane, hé hey. Kenny Clark riait
comme un enfant s'endort. Comme un enfant s'endort, comme un enfant s'endort. Kenny Clark riait comme un enfant s'endort. Comme un enfant s'endort ayant vu le miracle. Comme un enfant s'endort dans l'œuf ailé de Pâques. Dans l'amour tournoyant. Locomotive, locomotive. Yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yo, yo. Yeah, yeah, yo, yo. Da, 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 da. Oh, yeah, ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Tout le monde va descendre dans la gare divine.
Et avec cette chaude ambiance nougaresque se termine cette émission d'Étonnez-moi Benoît que nous vous avons proposée aujourd'hui en direct. Vous entendez le tumulte du public de la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Et vous retrouverez ici même à 16h Clément Rochefort également pour une émission en direct de France Musique. Nous nous quittons grâce au travail technique que nous ont proposé ce matin Hervé Dubreuil, Sébastien Huel, Alexandre James, Guillaume Ross, Flora Sternadel, Pascal Morel, réalisation Christine Amado. Et puis bien sûr, rendez-vous samedi prochain à 11h pour un nouvel Étonnez-moi Benoît. J'aurai le plaisir d'accueillir Monsieur Dave. D'ici là, bon week-end à tous entre Paris, Toulouse et toute la France avec France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.